C'est cool.
La radio.
School.
Ave, chers auditeurs, c'est Cure-Dent
et Hérisson sur RT Forêt.
Et ce sera la blague.
La voici.
Deux cure-dents se promènent en forêt
et soudain un hérisson passe devant eux. L'un d'entre eux dit:
tu savais qu'un bus passait par ici? Ben nous, on doit vous quitter.
À mardi, c'était Lucas,
le hérisson, et Mathieu,
le cure-dent.
Mandelieu, la Napoule,
Istanbul,
Risoul,
Frioul,
Liverpool,
Banjul,
Aknoul,
la Bourboule,
Toul,
Blackpool,
Séoul.
Des endroits, il y en a une foule.
Sur RT Cool.
Salut, c'est Alix.
Et Eva pour le pays de la semaine.
Salut Eva, tu fais quoi avec toutes ces valises?
Je vais en vacances. Pourquoi Alix?
Mais nous ne sommes pas en vacances.
Peut-être pas toi, mais sur RT Cool avec le pays de la semaine, on est tout le temps en vacances.
Tu as raison, le pays qu'on vous présente est Cuba.
Cuba est un état insulaire des Caraïbes formé de l'île de Cuba, la plus grande île des Grandes Antilles, de l'île de la Jeunesse et de quelques autres petites îles.
Cuba est située au nord des Antilles, à la confluence de la mer des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique, au sud des côtes des États-Unis et de Bahamas, à l'est du Mexique et au nord des îles de Cayman et de la Jamaïque.
Cuba est ainsi la deuxième île la plus peuplée des Caraïbes, avec près de 11 241 200 habitants.
Sa capitale est la Havane. Sa langue officielle, l'espagnol, et deux monnaies y sont utilisées, le peso cubain et le peso cubain convertible.
L'île a été une colonie espagnole de 1492 à 1898, puis un territoire des États-Unis d'Amérique jusqu'au 20 mai 1902.
La monarchie catholique espagnole convertit l'île au cours du XVIe siècle après la découverte de l'île par Christophe Colomb le 28 octobre 1492 et l'intègre à son empire.
La domination espagnole durera jusqu'à la signature du traité de Paris en 1898. Au cours de ces quatre siècles, de nouvelles villes verront le jour, dont Santiago de Cuba, 1514, et la Havane, 1515.
Malgré les efforts de Bartolomé de las Casas, la population indienne payera un lourd tribut. Elle sera pratiquement décimée en quelques années.
L'île se tourna vers de nouvelles activités. Tabac. Plus ou moins 300 millions de cigares par an, ainsi qu'une douzaine de milliards de cigarettes brunes ou blondes, café et canne à sucre, hérités de quatre siècles de colonisation espagnole et qui procurent à Cuba le plus gros de ses ressources.
Cette dernière activité nécessitait une main-d'œuvre importante. Il sera fait appel aux esclaves africains.
Il semble que l'on ait cultivé dès 1523 la canne à sucre à Cuba, où l'on a trouvé les meilleures conditions de croissance. Climat chaud, sol humide et juste avant la coupe, une période sèche et propice.
En 1620, Cuba produisait 550 tonnes de canne à sucre. Cuba est régulièrement frappé par des ouragans pendant l'été et l'automne.
En 2012, le pays est classé 161e sur 179 par Reporters sans frontières pour le peu de liberté accordée, même si l'objectivité de cette organisation est contestée par certains.
Cuba est ainsi le second pays au monde avec le plus de journalistes emprisonnés, selon le Comité de la protection des journalistes, qui désigne le pays comme le quatrième pire pays pour le traitement des blogueurs.
Cette semaine, Cuba est au cœur de l'actualité avec la visite du président des États-Unis, Barack Obama.
En effet, c'est le premier président des États-Unis en exercice à fouler le sol cubain depuis 1928.
Cette visite, marquée par un tweet historique, Que bola Cuba, comment ça va Cuba,
qui marque le rapprochement entre ces deux pays, longtemps éloignés aussi bien sur le plan économique que politique.
Nos sources sont un atlas,
un dictionnaire Larousse
et Wikipédia. Au revoir et à la semaine prochaine pour enrichir vos connaissances en géographie.
Mais qu'est-ce que tu fais, Eunice ?
Bah, je déménage.
Là, on a radio.
Ah oui, j'avais oublié. J'étais tellement préoccupée par mes fleurs. Je n'ai pas envie qu'elles pourrissent.
Moi, j'ai un remède pour ton cas.
Tu peux me le dire, s'il te plaît, Inès ?
Ok. Tu prends un vase, tu coupes les tiges des fleurs, tu prends une pastille d'aspirine et tu la mets dans le vase avec les fleurs.
Merci beaucoup, Inès. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter. Salut et bon voyage sur RT Cool.
Salut Amalia.
Salut Clémentine.
On est là pour le personnage historique qui est Louis-Napoléon Bonaparte.
Je connais un peu son histoire, et toi ?
Oui, je connais plusieurs choses. Si on assemble nos connaissances, on pourra faire un bon berceau histo.
Louis-Napoléon avait extrêmement confiance en lui.
Cette confiance en soi le mena de l'exil au pouvoir.
Troisième fils de Louis Bonaparte.
Lui-même frère de Napoléon et roi de Hollande.
Et d'Hortense de Beauharnais.
Il est né à Paris, aux Tuileries, le 20 avril 1808.
Élevé par sa mère au château d'Arenbeck.
En Suisse, il entre en 1830 à l'école d'artillerie et du génie de Thun.
L'année suivante, il participe à l'agitation révolutionnaire en Romagne.
En 1832, après la disparition du duc de Reichstadt,
il se pose en successeur de l'empereur.
En 1836, il affirme ses prétentions en tentant vainement de soulever la garnison de Strasbourg.
Exilé en Amérique, il en revient en 1837 pour s'installer en Angleterre et tente en 1840 à Boulogne-sur-Mer un nouveau coup qui se solde également par un échec.
La Chambre des Pairs le condamne à la prison perpétuelle. Incarcéré au fort de Ham, il lit beaucoup et écrit sa brochure sur l'extinction du paupérisme. Il s'évade en 1846 et gagne la Grande-Bretagne où une riche anglaise,
Miss Howard, met sa fortune au service de ses ambitions après la Révolution de 1848.
Élu dans 8 départements, il fut autorisé à venir siéger à l'Assemblée constituante.
Il y fit une médiocre impression, mais cela le servit.
Il parut insignifiant et rassurant au chef du Parti de l'Ordre,
qui, effrayé par les journées de juin, était en quête d'un candidat d'union inoffensif.
Mais l'histoire allait en décider autrement.
Nos sources sont...
Une fiche d'histoire de la classe.
Voilà, je connais pas plus de choses que toi.
Mais c'est très bien.
C'est un bon début. Tu m'invites chez toi, comme ça, on pourrait continuer nos recherches.
Salut Amalia.
Salut Clémentine.
Le moment des sciences.
Salut, c'est Barnabé
et Julie pour le moment du
chouchou
ou des sciences.
Bon voyage.
Le train est un matériel roulant ferroviaire assurant le transport de personnes ou de marchandises sur une ligne de chemin de fer.
Par extension, on appelle le train le service que constitue chacun de ces transports, régulier ou non.
Le train est un mode de transport s'effectuant sur une voie ferrée.
Le 21 février 1804, près de Merthyr Tydfil, au Pays de Galles, eut lieu la première circulation sur des rails d'une locomotive à vapeur construite par Richard Stravinguin en Angleterre. Mais des convois formant un train ont été signalés bien auparavant.
La première utilisation attestée de chariots sur rails non motorisés remonte à 1550 sous la forme de gravures montrant des wagonnets sur rails dans les mines de Lebertal en Alsace.
On pense que les Romains ont pu utiliser un système similaire à des voies ferrées, certaines de leurs routes étant dotées de deux ornières à écartement fixe, très proche de celui de notre voie actuelle.
La génération du système ferroviaire a été permise par la mise au point de la machine à vapeur, mais de nombreux systèmes alternatifs ont été utilisés au début pour faire face au manque de puissance de celle-ci ou pour s'adapter à des situations particulières.
Notamment la traction par chevaux ou par câbles, ainsi que l'utilisation de la simple gravité quand la pente le permettait.
Ces méthodes, à la fois lentes et hasardeuses, ont rapidement pris fin avec la généralisation
de la traction par locomotive et les progrès rapides de ces machines.
À partir de 1900 environ, l'apparition de moteurs électriques puissants et suffisamment compacts a permis l'apparition de la traction électrique, toujours utilisée à l'heure actuelle.
Ce mode de traction nécessite cependant que la ligne sur laquelle le train circule soit équipée, soit d'une caténaire, soit d'un troisième rail alimenté en électricité.
L'entre-deux-guerres verra l'apparition de locotracteurs diesel, puis progressivement de locomotives diesel dans l'après-guerre.
Les années 1950 sont la charnière entre disparition de la traction à vapeur et développement des moteurs thermiques.
C'est également à cette époque que l'on observe l'apparition de locomotives capables de fonctionner sous une tension alternative.
En France, un TGV, signe de train à grande vitesse, est un train alimenté électriquement et atteignant régulièrement la vitesse de 320 km/h sur des lignes à grande vitesse LGV.
Il a atteint 574,8 km/h lors d'un record du monde de vitesse sur rail en 2007.
Nous espérons que vous êtes arrivés à destination.
Maintenant que vous savez son histoire, vous pouvez prendre le train.
Il va partir. Bon, on vous laisse.
À la semaine prochaine pour un nouveau voyage.
Avia on abes.
Once upon a time.
Ishe.
Elle a ou me vu.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine.
Hola, c'est Aloïs.
Salam alaikum, c'est Mohamed pour la phrase de la semaine.
Hé hey Aloïs, je viens d'apprendre que tu étais espagnole. Tu sais le parler ?
Oui, aucun souci.
Alors, comment dit-on en espagnol la capitale de l'Irak est Bagdad ?
On dit, la capitale des Irak se llama Bagdad. Momo, toi aussi tu as des origines ?
Oui, c'est l'Irak.
Alors, comment dit-on en arabe Madrid est la capitale de l'Espagne ?
On dit, así me tu España y Madrid.
Voilà, on espère que ça vous aura plu.
À la semaine prochaine
sur Articool.
Le coin du musicien.
Salut tout le monde, c'est Trois Ukulélés qui vous parle.
Alors Bertrand, nous allons jouer quoi aujourd'hui ?
Je ne sais pas, on pourrait jouer Dangerous de David Guetta.
Non, il nous faut quelque chose de plus doux.
Comme The Wimbo ? Génial, je savais qu'on pouvait compter sur toi pour nous trouver une bonne musique.
Ok, allons-y.
Musique ! Que notre musique vous a plu et à la semaine prochaine.
Le moment des sports.
Le
Le jeu d'échecs oppose deux joueurs de part et d'autre d'un plateau ou tablier appelé échiquier, composé de 64 cases claires et sombres,
nommées les cases blanches et les cases noires. Les joueurs jouent à tour de rôle en déplaçant l'une de leurs 16 pièces,
ou deux pièces en cas de roc, clair pour le camp des blancs, sombre pour le camp des noirs.
Chaque joueur possède au départ un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions.
Le but du jeu est d'infliger à son adversaire un échec et mat.
Une situation dans laquelle le roi d'un joueur est en prise sans qu'il soit possible d'y remédier.
Les règles actuelles se fixent à partir de la fin du XVe siècle.
Le jeu d'échecs est l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde.
Il a très largement inspiré en particulier la peinture,
la littérature et le cinéma.
Échecs et mat.
Oh non!
Dommage Paul, je peux jouer, par contre je ne connais pas les règles.
On va t'expliquer.
Pour commencer, tu vas connaître le placement des pièces.
Les pions. Les pions ont la taille d'une demi-pièce et ils se déplacent au début de la partie sur toute la première rangée.
Les tours. Les tours sont très reconnaissables grâce à leur forme. Elles se placent sur les extrémités de la première ligne. Les cavaliers. Les cavaliers sont aussi très reconnaissables. Ils se placent à côté des tours.
Les fous. Les fous sont une pièce basique ressemblant à un fou avec un seul grelot. Ils se trouvent à côté des cavaliers. La dame. La dame est la plus grande que toutes les autres pièces, excepté le roi. Contrairement au roi, elle n'a pas de couronne. Elle se place sur la case D1 de l'échiquier.
Le roi. Le roi est la pièce la plus importante du jeu. On le reconnaît grâce à sa taille et à sa couronne.
Et maintenant, nous allons poser des questions à un professeur spécialiste des échecs.
Bonjour, pouvez-vous nous expliquer la façon dont se déplacent les pièces ?
Bonjour les enfants. Donc les pièces aux échecs, elles se déplacent de plusieurs manières, tout dépend de la pièce. Les pièces vont seulement vers l'avant, les pions, les petits soldats qui protègent toutes les autres pièces, et en particulier la pièce majeure que vous connaissez, qui est le
roi.
Ensuite, eux ne peuvent pas revenir en arrière, donc ils sont toujours en déplacement vers l'avant. Les autres pièces peuvent avancer et reculer. Elles se déplacent soit en diagonale, soit avec un déplacement particulier comme le cavalier. Vous vous dites « cavalier » fait trois bonds. Et en fait, ce que ça dessine à peu près un Y, son déplacement, ou un L, comme on veut. Ensuite, il y a la dame et le roi qui, eux, se déplacent en diagonale et en colonne et ligne. Eux, ils ont tous les pouvoirs. Et les tours qui, eux, ne se déplacent que, qu'elles ne se déplacent que sur les lignes et les colonnes. D'accord, mais après, les déplacements, c'est assez complexe.
Le roi est la pièce la plus importante du jeu. Quels sont ses déplacements et comment fait-on pour le prendre ?
Alors, les déplacements, il peut se déplacer d'une seule case. En diagonale, en colonne ou en ligne. Comment on fait pour le prendre ? On ne peut pas le prendre, le roi. À la fin, quand il est échec et mat, ça veut dire qu'il ne peut plus se déplacer. Et qu'il va être pris, mais on ne le prend pas en fait. Le jeu s'arrête lorsque le roi est bloqué. Il peut être bloqué aussi si, sans être échec et mat, il est pat. Il ne peut plus se déplacer sans être en échec. Or, il n'a pas le droit de se mettre en échec tout seul. Du coup, la partie est nulle et en fait, les deux joueurs font match nul.
Quand le roi d'une couleur se retrouve tout seul, que se passe-t-il ?
Tout dépend. Si parfois il y a des configurations d'échiquier où l'adversaire n'a pas les pièces suffisantes pour pouvoir faire échec et mat, donc la partie s'arrête parce qu'il ne pourra pas y avoir échec et mat. Sinon, le roi il se déplace jusqu'à ce que l'adversaire arrive à le mettre échec et mat et le bloquer dans un coin. C'est la technique que souvent je vous fais apprendre en premier, qui est le mat des escaliers. Où il y a deux tours, un roi contre un seul roi.
Quels sont les jeux semblables aux échecs ?
Là, vous en avez sûrement entendu parler en ce moment, il y a le jeu de Go, où il y a l'ordinateur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Aigo, qui gagne le champion du jeu de Go. C'est un jeu de stratégie où il faut enfermer les pièces, donc on place des pièces, mais elles ne se déplacent pas. Après, il y a son petit cousin, qui est le jeu de dames, où on déplace des pions vers l'avant ou vers l'arrière, et on essaie de les capturer, de capturer les pièces adverses. Mais aux échecs, le but n'est pas de capturer les pièces adverses, mais de bloquer le roi et de faire en sorte qu'il soit capturé.
D'accord.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, on joue ?
Ok, je vous laisse.
Johan, tu fais quoi?
Je fais mes petits calculs du matin, Mohamed.
Tu sais au moins d'où vient le mot calcul?
Échec et maths. Oups, désolé, vous êtes en train d'enregistrer. On va parler moins fort.
Oui, ça vient de calculus, caillou utilisé pour compter avec un boulier ou avec la bac.
Salut, c'était Mohamed.
Et Johan?
Sur RT Cool.
Interview.
Bonjour, c'est Rémi sur RT Cool. Avec Anna, nous avons interviewé Gwenaëlle Boulet, la rédactrice en chef d'Astrapi. En voici le résultat. Pourquoi ce magazine s'appelle-t-il Astrapi?
Alors, très bonne question. Ce magazine s'appelle Astrapi parce que il y a très longtemps, il y a presque 40 ans quand il a été créé, on cherchait un nom rigolo pour ce magazine et il y avait une petite histoire pour les petits dans laquelle il y a une sorcière qui disait « Astrapi, je te pie, astrapant, je te pends ». C'est une sorte de formule magique. Et donc, les gens qui ont créé Astrapi ont trouvé que ce petit mot de Astrapi était rigolo, ils l'ont choisi. Et ça veut dire aussi « éclair » en grec.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Alors, j'ai choisi d'être journaliste pour enfants parce que je m'intéresse à plein de choses, un peu comme les enfants. Donc, c'est un métier qui permet de rencontrer plein de gens dans le monde entier, en France, par exemple, vous, ce matin, avec Radio T'es Cool. Et voilà, d'explorer plein de domaines que je ne connais pas encore. Et puis, surtout, de faire plein de choses avec les enfants, aussi la cuisine, le bricolage, que j'aime beaucoup.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler pour Astrapi?
Du coup, c'est un petit peu la même raison. C'est non, déjà, non. Ce que je peux te dire, c'est que Astrapi était le magazine que j'adorais quand j'étais petite. Donc, quand j'avais votre âge, à 10 ans, j'étais une grande fan d'Astrapi. J'adorais qu'il arrive à la maison. Je lisais les articles, je découpais, je faisais les bricolages. Et ça s'est retrouvé un peu comme un hasard plus tard. Mais quand on m'a proposé de travailler à Astrapi, j'ai vraiment bondi de joie. J'ai trouvé que c'était une super idée.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier?
Alors, je suis journaliste pour enfants depuis 18 ans, oui. Et j'ai commencé par les tout-petits avec Pomme d'Api, et puis après Astrapi, et puis après les grands avec Phosphore, c'est au lycée. Et puis, voilà, depuis quelques temps, je suis rédactrice en chef d'Astrapi.
Depuis combien de temps Astrapi existe-t-il?
Alors, Astrapi a 38 ans, il aura 40 ans en 2018. On fera une grande fête d'anniversaire.
Combien de numéros imprimez-vous par an?
Alors par an, il faudrait que je fasse la multiplication très rapidement en direct, donc je ne vais pas la faire. On a 60 000 enfants qui nous lisent tous les 15 jours. Donc je vous laisserai faire le petit calcul.
Astrapi est-il un magazine français ou traduit d'une autre langue?
Alors c'est un magazine français qui est fabriqué par nos équipes à Porte d'Orléans, Montrouge, tout près de Paris. Par contre, il est imprimé parfois en Espagne, parfois en France.
Est-ce que c'est difficile de trouver des sujets pour votre magazine?
Alors, c'est pas difficile au sens où on est nombreux et qu'on est plein à avoir plein d'idées. Mais tous les trois mois, on se retrouve tous ensemble, toute l'équipe, pour justement partager tous les sujets, toutes les envies qu'on a. Et puis, on essaye de choisir les meilleurs, de trouver ce qui est le plus équilibré. C'est-à-dire que tous les ans, on essaye de faire un peu d'animaux, un peu d'histoire, un peu de bricolage, un peu de choses rigolotes. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaye de trouver les sujets tous ensemble.
Combien avez-vous d'abonnés à ce magazine?
Alors, on a environ 55 000 abonnés. Et ensuite, on a des ventes dans les kiosques qui sont entre 2005 et 7000. Ça dépend des numéros.
Qui est-ce qui vous a donné envie d'être rédactrice?
Alors, je crois que ce qui m'a donné envie, c'est vraiment d'être... Il y a deux choses que j'aime beaucoup. Je crois que je suis très curieuse. J'aime beaucoup découvrir des sujets sur lesquels je serais pas allée forcément. Donc, ça me permet vraiment de découvrir plein de choses. Et puis, j'aime beaucoup écrire aussi. Donc, j'aime bien, un peu comme vous, quand vous faites vos articles pour Radio T'es Cool, vos chroniques. Au début, on a plein de choses, on découvre plein de choses parce qu'on fait des recherches, on découvre sur Internet, dans les livres, en allant interviewer des gens. Et puis après, il faut réussir à écrire quelque chose d'assez petit qui va intéresser le plus de lecteurs possible. Et ça m'intéresse beaucoup.
Astrapi est-il un journal quotidien, hebdomadaire ou mensuel?
Aucun. Il est bimensuel. Parce que donc, il paraît deux fois par mois, tous les 15 jours. Donc, il est bimensuel.
Merci pour ce moment d'échange et à très bientôt sur RT Cool.
Merci. Merci à vous.
Hey, coucou les auditeurs.
On va commencer directement par les gagnants de la semaine dernière qui sont...
Philippe Buros.
Maintenant, on peut leur faire écouter le son mystère.
Pas maintenant, tu vas trop vite, on attend un peu.
Allez, moi j'en ai marre. Le son mystère est...
Si vous avez...
Mais pas plus vite.
Ok, si vous avez trouvé, répondez-nous sur son-mystère.cm2@laposte.net.
Allez, on vous laisse.
Salut tout le monde.
RT Cool.
La radio.
À school.
At school. School.